Si vous écoutez ce podcast, c'est parce que vous êtes passionné par le vin, par ceux qui le font et ceux qui le partagent. Un peu comme Ideal Wine finalement. Ideal Wine, notre PME française est devenue le site de référence des amateurs pour l'achat, la revente et la cotation de grands vins. Et nous en sommes très fiers. Car notre équipe de passionnés s'attache depuis 2000 à rendre accessible aux amateurs ce que le vignoble offre de meilleur. Deux types de ventes sont proposés sur notre site. Les enchères en ligne, pour lesquelles nous sommes aujourd'hui le premier acteur mondial, et une offre e-caviste qui s'appuie sur un réseau de 900 domaines partenaires, également animé par des rachats de caves particulières expertisées. Ideal Wine est le seul site capable d'aligner côte à côte de vieux flacons et les tout derniers millésimes d'un même domaine. Ideal Wine, c'est une équipe engagée pour vous guider et vous accompagner dans la constitution d'une cave qui vous ressemble. Au service du vin, de ceux qui le créent et de ceux qui le partagent depuis 2000.
Vous aimez mieux les disques que la radio?
Mais c'est du podcast!
Oui, mais très bien, je vois très bien.
Tous les invités ont répondu présent.
C'est la bonté même, la générosité.
Nous sommes arrivés à un carrefour historique.
Nous sommes en veine de générosité tous les deux. Qu'est-ce que cela signifie?
Le Podcaston, c'est le premier rassemblement caritatif des podcasts francophones propulsé par Altrui. Nous vous remercions de soutenir les associations qui seront mises en avant pendant cet événement.
Je suis nourrie par la sororité, en fait, et la sororité, j'y crois beaucoup, et on est plus fortes ensemble, et ça, j'y crois vraiment.
Le vin, le jaja, le pinard, le pif. Il existe une ribambelle de termes pour désigner ce breuvage que nous aimons tant, le jus de raisin fermenté. Et c'est parce que nous l'aimons plus que tout que nous voulons mieux comprendre ce qui fait un bon vin. Cépage, climat et terroir y participent, mais avant tout, il y a la patte des vigneronnes et des vignerons. Je suis Romain.
Je suis Florian.
Je suis Antoine.
Nous sommes trois copains et nous vous emmenons à la rencontre de ces hommes et de ces femmes dans leur domaine pour les interroger sur la magie de leur métier et leur vie au milieu des raisins, des vignes et des barriques. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse.
Pour ce 58e épisode, nous répondons à l'appel du podcaston. Cet événement, qui en est à sa deuxième édition, regroupe des podcasteurs et podcasteuses francophones qui dédient un épisode spécial à une association qui leur tient à cœur. Nous avons donc aujourd'hui le plaisir de discuter avec une vigneronne engagée, Isabelle Perrault. Au-delà de son métier, Isabelle lutte avec acharnement contre les violences sexistes et sexuelles dans le monde du vin avec l'association Paye ton Pinard. Bonjour Isabelle Perrault.
Bonjour à tous les deux.
Alors, petite originalité aujourd'hui puisqu'on est à Paris. On n'a pas le plaisir d'être dans le Beaujolais, dans ton domaine. Mais on est là pour une raison bien particulière. Déjà pour parler de toi, qui est une raison tout à fait suffisante normalement pour te voir. Mais en plus, on participe à un événement qui s'appelle le Podcaston. Et tu es là avec nous aujourd'hui pour parler d'une association que tu as créée et que tu représentes, j'allais dire, haut et fier sur les réseaux sociaux et dans la sphère publique. Mais est-ce que pour commencer, tu peux te présenter, s'il te plaît?
Oui, alors moi je suis donc Isabelle Perrault, je suis vigneronne en Beaujolais depuis plus de 30 ans. Que dire? Alors nous on est passé en bio en 98, donc on a fait à peu près, on va dire, une petite dizaine d'années en conventionnel. On est passé en bio en 98 et on a très rapidement pris le virage des vins naturels. En fait, voilà, par goût essentiellement, parce que moi j'aimais pas trop le vin conventionnel. Donc j'ai voulu essayer de faire un vin qui me plaisait. Voilà.
Quand tu dis on, c'est qui?
C'est mon mari et moi, en fait, parce qu'on est co-exploitants. Donc, on est tous les deux exploitants à part égale dans le domaine, tous les deux.
Avec le nom des deux personnes sur l'étiquette?
Avec le nom des deux personnes sur l'étiquette, oui.
Comment ça a démarré, cette aventure, l'aventure de votre domaine?
Ben, en fait, Bruno, lui, il est la sixième génération de vignerons. Donc lui, son destin a été un petit peu tracé. Il a repris un peu sans vraiment réfléchir à ce qu'il allait faire parce que c'était un peu hein, quelque chose d'obligatoire presque. Et en fait, on s'est rencontrés. Ben, moi, j'étais assez jeune, j'avais 16 ans. Je passais mon bac et après je suis partie. Moi, j'ai fait des études universitaires de lettres et de psychanalyse. Voilà, rien à voir avec le monde du vin. Et en fait, on s'est mariés. J'avais 20 ans et en fait, moi, bah, j'ai commencé à m'intéresser. J'étais pourtant toujours à la fac, mais il a fallu que je m'intéresse en fait pour filer un coup de main. Et puis petit à petit, je me suis pris au jeu. Du vin et de comment le faire et à la vigne et au cuvage en fait. Donc ça a commencé pour moi. Enfin moi, c'était pas du tout quelque chose que je voulais faire. Je dis toujours que je suis arrivée dans le vin parce que je me suis mariée avec un vigneron.
Et qu'est-ce qui t'a plu dans cette activité ?
Ce qui m'a plu, en fait ça a été vraiment petit à petit, au départ, ça a été de découvrir un peu la vigne, ce qu'on faisait à la vigne. J'ai travaillé aujourd'hui, j'y vais plus, mais j'ai travaillé pendant 20 ans à la vigne, à faire tous les travaux de la vigne. Ce qui me plaisait, c'était d'être libre, de pouvoir décider de ce qu'on allait faire, comment on allait le faire et pourquoi on allait le faire. Et puis parce que je pense que j'aime apprendre et que c'était quelque chose que je connaissais pas du tout et que j'avais envie de découvrir en fait. Je pense que si je m'étais mariée avec, je sais pas moi, quelqu'un qui fait des fromages, j'aurais aimé aussi apprendre à faire du fromage. Et... Enfin voilà. C'était pas quelque chose de choisi, mais c'est quelque chose que j'avais envie d'apprendre. Donc en fait, j'avais envie d'apprendre, mais j'ai vraiment tout mis en œuvre pour apprendre. Alors, j'ai fait une formation pour adultes en vitiono pour aussi me sentir un peu plus légitime, parce que bon, moi, je viens pas du tout d'une famille de vignerons, donc je me sentais pas légitime par rapport à ça, j'y connaissais absolument rien. Et puis après, j'ai énormément échangé avec des vignerons essentiellement parce qu'il n'y a pas trop de... objectivement, je n'ai pas échangé avec des vigneronnes parce que je ne me suis jamais trouvé vraiment de croiser des vigneronnes. Mais j'ai échangé beaucoup avec des vignerons et posé des questions pour apprendre, comprendre et avancer en fait.
Tu dis que tu ne vas plus à la vigne aujourd'hui. Qui est-ce qui y va alors ?
Alors aujourd'hui, Bruno, parce que lui, il aime vraiment ça. Il aime vraiment, lui, être dans les vignes. C'est quelque chose qui lui plaît vraiment. Et puis aujourd'hui, on a notre fils depuis 2 ans qui est revenu, Thomas, qui a 34 ans, 35 ans, et qui a fait, lui, une reconversion professionnelle après des études d'ingénieur et qui, lui, maintenant, est dans les vignes aussi. Alors, pour le moment, en tant que prestataire, enfin, il travaille, on va dire, comme salarié et il est en train de s'installer, de monter un dossier d'installation et de s'installer et sur des vignes que son frère a achetées et sur des vignes que nous, on va lui laisser pour s'alléger un peu. Voilà.
C'est qui les vignerons ? Qui t'ont aidé à progresser ? Est-ce que c'est uniquement dans le Beaujolais ou est-ce que t'as eu aussi des gens ailleurs qui t'ont
aidé ? C'est beaucoup dans le Beaujolais. Je pense beaucoup, quand je parle de ces vignerons, je pense beaucoup à Jean-Gilles Chasselet, dans le sud Beaujolais, avec qui j'ai travaillé pendant 10 ans sur un salon qu'on a co-créé qui s'appelle la Beaujolaise. Et au sein de BBB, Bien Boire en Beaujolais.
Alors, c'est un grand salon, ça, qui permet de goûter énormément de gamets d'un coup.
Voilà.
C'est début avril, en général.
Oui.
Là, la prochaine édition, c'est le 7 et 8 avril 2024.
C'est ça.
Et à la fois, c'est un salon et c'est aussi une très belle fête, d'après ce que j'ai compris.
Oui, oui, oui. C'est avant tout une fête, je pense.
Avis aux amateurs,
vu
alors.
Vu la réputation que... Qu'on en a. Mais voilà, donc moi j'ai beaucoup travaillé avec Jean-Gilles et qui n'était pas du tout avare de me donner, d'échanger en fait. Et j'ai beaucoup appris avec lui et évidemment avec Bruno, mon mari.
Vous avez quelle surface aujourd'hui ?
Actuellement, on a quelque chose comme 9 hectares.
Sur quelle partie du Beaujolais exactement ?
Alors, on est ce que j'aime à dire le grand nord du Beaujolais.
Dans les coteaux plutôt.
Voilà, on est vraiment en coteaux. Nous, on est presque à 500 mètres d'altitude. Le point culminant à Vornard, c'est 900. Donc, on est vraiment en altitude.
Vornard, c'est là où il y a la petite Sibérie ou non ? Comment ça s'appelle ?
Non, c'est pas la petite Sibérie. On est dans le Beaujolais vert, la petite Sibérie. Alors, je veux pas dire de bêtises. Je sais plus la commune sur laquelle ça se trouve, mais c'est pas à Vornard.
Et Vornard, c'est un secteur plutôt frais du Beaujolais quand même.
Ouais. C'est un secteur plutôt frais où on a où on avait de la neige, on en a un petit peu encore, mais plus trop avec le réchauffement climatique. Et du coup, je pense que justement avec le changement climatique, on est sur un secteur qui est plutôt intéressant maintenant parce qu'on est un petit peu en altitude, parce qu'on bénéficie quand même d'un paysage très varié, contrairement à quand on descend plutôt dans les crues où il n'y a que des vignes en fait. Nous on a beaucoup de prés, on a beaucoup de bois, on a des vignes, on a des haies et on a une biodiversité, je pense, qui est assez intéressante sur Vornard.
Et ça, tu penses que ça joue dans la viticulture et dans le goût des vins ?
Oui, déjà ça joue. Alors actuellement sur le fait que on a déjà des chaleurs qui sont beaucoup moins intenses. On a de l'air, on a des nuits plus fraîches. Donc ça, c'est important aujourd'hui. Enfin, vraiment. À une époque, il y a 30 ans, à Vornard, c'était compliqué. Le raisin avait des difficultés à arriver à maturité. On était sur des degrés. Nous, on faisait des degrés. Enfin, on arrivait à faire des vins à 10 degrés. On ne chaptalisait pas, mais voilà, on faisait des vins avec des degrés assez faibles. Mon beau-père nous a dit des fois avoir vendangé presque sous la neige, tellement ils attendaient que ça mûrisse. Mais il y a un moment donné où ça ne mûrit plus trop. Mais voilà, avoir vendangé au mois d'octobre. Aujourd'hui, nous, à Vornard, on vendange au 15 août comme les autres, en fait, et on arrive à avoir des maturités qui sont presque parfaites, niveau acidité, sucre, voilà. Et puis après, la biodiversité, elle est toujours intéressante parce qu'on a besoin, des insectes, on a besoin de la flore, de la faune, on a besoin de tout en agriculture. Et je trouve que ce qui est... ce qu'on a oublié un peu, c'est... Enfin, moi, je pense que la monoculture est... Enfin, ça ne peut plus marcher. Enfin, c'est une aberration, en fait, la monoculture. Et nous, on a eu une chance. Je ne peux pas dire que c'est une chance vraiment, mais on a eu, à un moment donné, il y a une trentaine, 25 ans, une trentaine d'années, une petite trentaine d'années, on a eu, il y a eu une crise viticole assez importante en Beaujolais. Il y a beaucoup de vignes qui se sont arrachées. Et à Vornard, en fait, beaucoup de coteaux se sont arrachés. Des vignes qui étaient difficiles à travailler parce qu'il y a eu des primes à l'arrachage. Et en fait, on est revenu vers un paysage d'avant où... parce qu'en fait, à un moment donné, où le vin se vendait bien, où le Beaujolais nouveau avait le vent en poupe, et là, on a planté un peu de partout. Et en fait, avec l'arrachage, on est revenu à des densités de plantation un peu plus humaines, peut-être. Et du coup, qui font qu'aujourd'hui, on a un paysage varié et que c'est aussi beaucoup plus agréable à vivre au quotidien.
Est-ce qu'il y a trop de vignes dans le Beaujolais aujourd'hui ?
Moi, je pense. Enfin, en tout cas, ce que je pense, c'est qu'il faudrait réfléchir à en tout cas, si on ne veut pas arracher de vignes, mais je pense qu'on sera obligé d'en arracher. Moi, je pense à une de nos parcelles à Moulin à Vent, qui est sur les bas de Moulin à Vent. On a deux parcelles. On en a une qui est un peu en hauteur et une qui est plutôt sur les bas. Franchement, quand on a des millésimes très chauds, on se demande comment on arrive encore à récolter des raisins parce que tout brûle en fait. Alors il va falloir peut-être qu'on se décide à planter des haies, à planter des arbres, à replanter d'autres choses en fait. Parce que oui, moi je pense que sur certains secteurs, il y a vraiment beaucoup trop de vignes.
Et comment tu gères justement la maturité sur des parcelles comme ça, là, comme celle de Moulin à Vent ?
On essaie de gérer la maturité en étant hyper vigilant et en essayant de ramasser plutôt assez tôt, en fait. En se disant, c'est pas tout à fait mûr, il reste encore peut-être quelques raisins roses, mais avec ces raisins roses, on va arriver à équilibrer un peu l'acidité et d'avoir des degrés pas trop élevés. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que si on continue de vendanger à la même maturité, celle qu'on imaginait il y a 20 ans ou 30 ans.
Gustativement, tu veux dire.
Ouais.
La maturité.
Et même visuellement, en fait. Et peut-être même analytiquement. Enfin, okay. Et ben, en fait, on a trop de sucre, on a plus d'acidité et on a des fermentations
qui vont
pas du tout. Enfin, c'est très, très compliqué. Donc, nous, on essaie de pallier à ça parce qu'en plus, on met pas d'intrants. Donc, voilà, on peut pas corriger ce qui va pas avec des intrants. Donc, on essaye de pallier à ça en vendangeant plutôt assez tôt, en fait, pour garder... Pour essayer de refaire un équilibre, si ça s'est déséquilibré, de rééquilibrer comme ça.
Et pour donner un ordre de grandeur, c'est quoi la différence de date de vendange entre ton moulin à vent qui a chaud et vos renards qui ont les pieds au frais ?
Déjà, simplement, en fait, un moulin à vent, on a deux parcelles. On a une parcelle sur Romanèche qui est assez basse et une parcelle qui est à 450 mètres d'altitude et qui est entourée d'arbres, voilà, qui est pas super bien exposée, on va dire. En fait, on a 3 semaines d'écart entre les deux parcelles à moulin à vent. On a 3 semaines.
Ça semble énorme.
Donc, ah oui, c'est énorme. Donc, la parcelle de moulin à vent, celle qui est très précoce, en fait, on la vendange juste nous. Quand on n'a pas les vendangeurs, parce que je ne peux pas faire venir une troupe de vendangeurs pour vendanger une journée. Donc, en fait, on fait une troupe de famille pour vendanger cette parcelle-là avant qu'on commence vraiment les vendanges sur le reste du domaine. Parce qu'après, entre Chéna, les vignes sur Chéna qui sont un peu hautes, et Vornard, il y a assez peu de différence, en fait. Mais c'est vrai qu'on peut avoir 3 semaines, voire un mois de différence.
Tu nous as dit au début de la discussion que vous aviez pris assez vite le virage du vin nature. Qu'est-ce qui t'intéresse dans ces vins-là et qu'est-ce que c'est pour toi déjà le vin nature ?
Nous, quand on a commencé à faire du vin nature, en fait, je savais... Enfin, quand j'ai eu envie de faire du vin nature, je me suis pas dit on va faire du vin nature parce que je ne savais pas que le vin nature existait. En fait, j'avais pas... Moi, ce que j'avais envie, c'était en fait plutôt de remettre en question ce qu'on faisait de façon un peu automatique parce qu'on le faisait, parce que c'était comme ça que ça se faisait. Et de poser des questions en disant, mais pourquoi là on met des sulfites à ce moment-là? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Et pourquoi on met des levures? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Et pourquoi on filtre? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Et en fait, on a fait des tests. En fait, moi, je voulais comprendre si on mettait pas de sulfites, quel goût ça avait? Si on mettait pas de levure, quel goût ça pourrait avoir? Et si on filtrait pas? Voilà, on faisait en fait des cuvées avec et sans. Et pour moi, il n'y avait pas photo, c'était meilleur sans. Voilà. En fait, on est arrivé comme ça. Et assez naturellement, on a été catalogué de vin nature, mais sans se dire à la base qu'on voulait faire du vin nature. Enfin, on faisait du vin nature parce qu'on ne mettait rien dedans, mais on ne s'est pas dit, nous, on va faire du vin nature. Voilà, c'était pas. En fait, moi, comme j'y connaissais rien dans le vin, et rien dans le monde du vin, je m'étais jamais vraiment intéressée. Et après, j'ai appris que Marcel Lapierre existait, que du coup, ça m'a intéressée, interpellée. Et parce qu'on nous disait, vous faites des vins comme un tel. Puis je me disais, je sais pas, en fait, parce qu'on les a jamais goûtés. Enfin, on aurait pu faire ces vins-là en se disant, je voudrais faire des vins qui ressemblent à lui ou à lui. Mais non, en fait, on a fait des vins. Parce que moi, j'avais envie de faire des vins comme ça. En fait, on ne sait pas, on a copié personne.
Justement, tu viens de dire que tu ne connaissais rien au monde du vin. Comment tu as construit ta connaissance du monde du vin et après ta vision du domaine avec ton mari?
Petit à petit, hein, je pense que comme, euh, comme chaque fin, quand on se lance dans une activité professionnelle, alors il y a des gens, par exemple comme Bruno, qui reprenait la succession et qui avait été baigné dedans depuis qu'il était petit. Après, quand on arrive et qu'on n'y connaît rien... En plus, moi, j'ai pas fait ça parce que le vin m'intéressait, en fait. J'ai fait ça parce que vraiment, je me suis mariée avec un vigneron et que j'ai essayé et que je m'y suis intéressée, entre guillemets, par la force des choses. Mais sinon, donc en fait, je me suis mise à déguster, j'ai essayé de savoir ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas, parce que je savais ce qui me plaisait pas, en fait, parce que mon père était un amateur de vin, que j'avais goûté des vins, mais que je ne buvais pas de vin parce que ça ne me plaisait pas et que je trouvais ça embêtant quand même. D'être dans le monde du vin, parce que je disais pas que j'étais vigneronne, ça fait pas très longtemps que je dis je suis vigneronne, je disais on est vigneron. Donc déjà, il y a un sacré problème. mais voilà, ça s'est fait vraiment progressivement. Et moi, j'ai vraiment appris tout. On m'a appris à tailler, on m'a appris à tout faire, en fait. Vraiment tout depuis le début. Donc j'ai parfait ma connaissance presque toute seule, quoi. Et Bruno, lui, il se posait pas trop de questions et j'ai un peu ébranlé toutes ses connaissances, en fait, parce que je lui posais tout le temps des questions. Mais pourquoi on fait ci, ça, voilà, quoi.
Alors juste, vous entendez un peu de bruit derrière nous, enfin un bruit de fond avec des gens qui rigolent, des bruits de pas, parce que on est dans le 11e arrondissement de Paris. On est chaleureusement accueilli par Simon, qui possède le bar qui s'appelle Le Novice. Voilà, donc il y a un petit peu de vie derrière nous. J'espère que ça gêne pas trop la comment on l'écoute. Alors, tu as accepté cette interview avec nous. Pour qu'on parle aussi d'un autre sujet qui aujourd'hui prend également une bonne partie de ta vie. Tu as créé une association qui s'appelle Paye ton pinard. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est le but de cette association et pourquoi est-ce que tu en es venu à la créer ?
Alors moi, j'ai d'abord créé le compte Instagram Paye ton pinard, qui je l'ai créé en septembre 2020. Un petit peu sur un coup de tête. Honnêtement, je n'avais pas d'idée derrière la tête quand j'ai créé ce compte-là. C'était juste que j'avais, moi, militante féministe, activiste, j'avais beaucoup de retours de femmes du vin, en fait, qui me confiaient des témoignages de sexisme et de violences sexuelles qu'elles subissaient ou qu'elles avaient subies. Et du coup, je me suis dit... j'ai eu envie de centraliser, parce que je ne savais pas quoi faire de tout ça. Je me suis dit, OK, ça existe, mais on en fait quoi ? Qu'est-ce qu'on fait pour que ça s'arrête, en fait ? Parce que moi, je ne peux pas... Enfin, ça ne sert à rien, en fait, que je l'ai... Si, ça... Enfin, ça sert... L'écoute, elle sert toujours, mais on n'avance pas. Donc, du coup, j'ai créé ce compte Instagram en me disant, ça va centraliser quelque part les paroles. Les femmes auront un endroit, peut-être comme une boîte aux lettres, en fait, pour s'exprimer. Et puis voilà. Et puis je sais pas trop. En fait, j'ai créé ça comme ça sans avoir d'idée derrière la tête ou de me dire quoi que ce soit. D'ailleurs, je ne savais même pas si ça allait fonctionner. Enfin, si les femmes. Enfin, j'avais pas du tout d'ambition, voilà, j'ai ouvert un compte et puis c'est tout. Puis en fait, très rapidement, il y a eu des abonnés et surtout, dramatiquement, il y a eu énormément j'ai eu énormément de témoignages. Très rapidement. Alors au début, j'ai pas dit qui était, j'ai pas dit que c'était moi qui était derrière le compte. Je l'ai gardé secret quelques mois pour me protéger aussi parce que je savais que ça. Que ça plairait pas à tout le monde. Enfin, moi, je me disais que ça plairait pas du tout. Donc, je préférais rester anonyme. Et en fait, j'ai eu très, très rapidement de nombreux témoignages, alors que les femmes ne savaient pas à qui elles parlaient. Elles se confiaient à ce compte, en fait. Et voilà, et ça m'a un peu terrifiée au début, parce que je me suis dit, y a un sacré problème, en fait, que je savais un peu, mais à ce point-là, je m'en doutais pas. Et puis après, en août 2022, on a créé l'association pour encadrer peut-être mieux, parce qu'avec un compte Instagram, on est un petit peu réduit à un compte Instagram. Donc on a créé une association avec quelques copines pour se dire « bon, on va créer une association et puis on verra ce qu'on en fait ».
Alors, ce compte-là, il s'inscrit un peu dans une époque aussi. Le nom, il vient pas de nulle part. Il y a aussi d'autres noms qui ont été utilisés de la même manière. Paye ta boîte, paye ta robe pour les avocats et les avocates, ce genre de choses. Tu dis que tu avais déjà des témoignages qui venaient à toi avant la création de ce compte. Donc, ça veut dire que tu étais déjà un petit peu reconnu pour ton engagement féministe. Comment est-ce que ça se matérialisait avant que tu crées le compte ?
Bah en fait, moi, ça se matérialisait de la façon de enfin, je communiquais sur ces questions sur les réseaux sociaux. Je partageais, mes actions féministes, militantes contre les violences sexistes et sexuelles. J'étais engagée et je le faisais savoir. J'ai commencé à militer quand même doucement, parce que c'est pas forcément évident, mais au sein de BBB,
Bien boire en Beaujolais.
Voilà, de Bien boire en Beaujolais, où je trouvais qu'il n'y avait pas assez de femmes, et doucement j'ai voulu imposer des femmes, parce que je me sentais un petit peu seule, et puis que j'avais envie aussi qu'on soit représentée. Alors je l'ai pas fait de façon j'ai été doucement, parce que j'ai toujours pensé qu'il fallait ménager tout le monde pour pas se mettre à dos les hommes, et que il fallait faire des concessions, avancer doucement. Et il y a un moment donné où je me suis dit les concessions, ça sert à rien, ça fait rien bouger, ils nous écoutent pas, ou alors ils vont nous dire oui par devant et puis par derrière ils continuent à faire ce qu'ils ont toujours fait. Donc c'est vrai que depuis quelques années, depuis 3 ans, 4 ans, je fais plus trop de concessions. Voilà. La guerre est déclarée.
Qu'est-ce que ça veut dire être féministe en 2024 ?
Oh là là, ça veut dire... être féministe, déjà, c'est pas un gros mot. D'être féministe, parce que souvent, on a l'impression que... Enfin, même moi, j'ai eu un peu de mal à m'affirmer féministe, même si je l'étais, parce que je savais que ça allait me mettre une étiquette et que j'avais pas forcément envie de l'assumer, et puis que je pensais à juste titre que ça allait me porter préjudice dans le monde du vin. Donc j'ai évité de le dire pendant longtemps et jusqu'à l'assumer. Être féministe, c'est juste vouloir un peu plus d'égalité en fait entre les hommes et les femmes. Ça veut dire lutter contre l'invisibilisation des femmes. Alors moi, je me suis concentrée dans le monde du vin parce que je suis dans le monde du vin. Mais c'est mettre les femmes en avant. On n'est pas du tout... Enfin, je veux dire, quand on dit que ça évolue, c'est pas vrai. Ça évolue pas du tout. Enfin, les femmes sont pas représentées dans les instances dirigeantes. On sera arrivé à l'égalité quand dans les instances dirigeantes il y aura des femmes, et pour le moment il y en a pas, on n'a pas la parole. Enfin, aujourd'hui les femmes elles n'ont pas la parole, et quand on leur donne la parole c'est pour parler des violences sexistes et sexuelles, quoi. Donc être féministe, voilà, c'est ça, c'est juste vouloir l'égalité entre les hommes et les femmes, et faire en sorte que Les violences sexistes et sexuelles, enfin, nous, on doit vivre au quotidien avec ça, et je trouve ça hyper injuste, en fait, parce que ça veut dire que tout le temps qu'on passe à se concentrer sur le sexisme qu'on va subir, sexisme ordinaire, ça nous empêche d'avancer, en fait. On a l'esprit sans arrêt
embourbée là-dedans sur il faut que je fasse attention. Et là, si je vais dans ce salon, je me concentre dans le monde du vin. Hein. Si je vais dans ce salon, faut que je fasse attention. Je sais qu'il y a un tel et un tel, il faut que je me méfie. Et puis, il faudra pas que je rentre tard. Et puis, il faudra pas que j'aille à la soirée du salon parce que la dernière fois, il m'est arrivé un truc. Donc, c'est bon, je vais plus y aller. Et franchement, c'est pas possible, quoi. Enfin, ça, c'est pas l'égalité. Et moi, je veux plus de ça. Je veux qu'on puisse être. Enfin, j'avais fait une enquête sur Peyton Pinard pour savoir si les femmes faisaient attention à leur consommation d'alcool pour pas se mettre en danger. Le résultat a été effarant. Enfin, donc on est dans le monde du vin. On est une femme, mais on doit faire attention à sa consommation d'alcool parce qu'on risquerait de se mettre en danger. Et après, si on s'est mis en danger en étant ivre, bah, on va nous dire que c'était de notre faute, qu'on n'avait pas à boire parce que du coup, on s'est mis en danger. Et du coup, bah oui, on n'était plus maître et c'est bien fait pour toi. Donc, et là, bah, du coup, on n'est pas égal. Les hommes, eux, ils peuvent boire et je ne veux pas inciter les gens à boire. Mais voilà, c'est toutes ces petites choses en fait, qui nous polluent au quotidien.
Qu'est-ce que ça t'a apporté de ne plus faire de concessions ?
Bah, ça m'a apporté, j'ai l'impression que de plus faire de concessions, j'ai l'impression que ça bouge un peu quand même. Parce que jusqu'à présent, on n'en parlait pas. Aujourd'hui, on en parle. Et Peyton Pinard, ça a une vraie importance pour plein de femmes, en fait. Je m'en rends compte tout le temps. J'ai pas forcément réalisé l'importance que ça pouvait avoir, mais il y a des femmes. Moi, j'ai eu un témoignage il y a quelques jours d'une femme qui m'a dit grâce à Peyton Pinard, je me sens plus forte. Et ça a pas de prix en fait. Ça veut tout dire. Et il y a des femmes qui se disent maintenant on n'est plus seules. S'il m'arrive un truc, je sais que je pourrais en parler. Je sais que, ou alors quand je publie un témoignage, j'ai plein de d'autres témoignages en message privé qui me disent « Ah mais moi, il m'est arrivé ça, moi aussi, il m'est arrivé pareil. » Enfin, un témoignage en déclenche des dizaines d'autres, en fait. Et c'est pour ça que c'est important. Alors, tous les témoignages ne sont pas publiés, mais il y a des femmes qui tiennent absolument à ce que leur message, c'est une vraie démarche, en fait. Quand elles me donnent leur message... Elles veulent que ce soit publié, mais des fois, on attend un jour ou deux, et puis elles me disent « Ah, je vais changer tel et tel mot », et puis « Oh, faudra me dire quand ça va être publié ». Et puis quand c'est publié, il y a plein de messages de courage, de soutien, et là, elles sont... Et souvent, c'est une première étape pour certaines à aller déposer plainte en plus, parce qu'elles ont, c'est la première fois qu'elles en parlent, donc c'est hyper important, c'est hyper fort, De publier, même si c'est anonyme, parce que on a beau dire, mais même si c'est anonyme, on a toujours l'impression qu'on nous reconnaît. Moi, j'ai eu publié quelque chose qui m'était arrivé sur anonymement, mais j'étais pas bien parce que je me disais, ceux qui m'ont fait ça vont se reconnaître en fait. C'était un témoignage d'agression sexiste, et je me dis, ils vont se reconnaître, c'est obligé, parce que c'est tellement gros. Enfin, qui fait ça, qui dit ça? Et en fait, c'est compliqué, quoi. Donc, je comprends vraiment la démarche et le courage qu'il faut pour témoigner, même anonymement, en fait. Donc voilà, c'est tout ça à prendre en compte. Donc, Peyton Pinard, vraiment, je pense qu'il y a plein de femmes qui se sentent plus fortes et moins seules. Parce qu'on est souvent très seul. Et en plus, bon, on est dans le monde agricole. Alors, il y a beaucoup de témoignages de femmes qui sont pas forcément... qui sont dans le monde du vin, mais qui peuvent être à Paris, qui travaillent dans une cave ou... Mais il y a beaucoup de femmes qui travaillent... qui sont soit dans les vignes en tant que... ou salariées ou ouvrières viticoles, ou qui travaillent dans des caves coopératives, ou qui travaillent et qui sont vraiment seules parce qu'elles sont... Elles sont souvent la seule femme dans une équipe d'hommes. Elles ont essayé d'en parler, on ne les a pas entendues. Ou alors, elles n'en parlent pas parce qu'elles ont peur et qu'elles ne veulent pas perdre leur boulot ou qu'elles ne veulent pas se griller dans le monde du vin, parce que ça, j'entends beaucoup. Et il y en a beaucoup, beaucoup trop, qui s'en vont du monde du vin. Et ça, moi, je trouve ça inadmissible, en fait. Là, en ce moment, j'ai énormément de témoignages de femmes qui sont parties du monde du vin à cause des violences qu'elles avaient subies, ou qui me disent « bon, là, moi, je vais bientôt partir ». Et ça, je trouve... Qu'on parte du monde du vin parce que ça ne nous plaît plus, parce qu'on n'a plus envie, parce qu'on a envie de faire autre chose, mais qu'on parte du monde du vin parce qu'on a subi des violences sexistes et sexuelles, je trouve ça intolérable, en fait. Être féministe, c'est ça. En tant que féministe, c'est quelque chose que je peux pas, que j'arrive pas à accepter, en fait. Et je leur en veux beaucoup à tous ceux qui font subir ça aux femmes, parce que à quel moment on éprouve de la satisfaction à humilier quelqu'un à ce point jusqu'à ce qu'il s'en aille, qu'elle s'en aille, quoi. Enfin.
Tu parlais de l'idée de se sentir moins seul. Est-ce que parmi les munitions de l'association Paye ton pinard, il y a aussi l'idée d'organiser des communautés, des personnes qui t'envoient des témoignages, je sais pas, par région, ouais, par secteur d'activité, par secteur de métier plutôt, enfin par métier. Est-ce que ça fait partie des missions, ça ?
Moi, j'aimerais bien... Alors, il y a déjà un collectif qui s'est créé à Angers, enfin dans la Loire, qui s'appelle VTF. Elles ont des actions locales. Et moi, j'aimerais vraiment... on aimerait arriver... Alors, soit à inspirer des collectifs comme ça, et puis après, à essayer de gérer un peu tout ça, nous, en tant que Paye ton pinard, parce que Paye ton pinard, on est une association, mais c'est national. Moi, je gère... On gère des problèmes et des situations dans la France entière, en fait. Donc... ça c'est quelque chose dont on parle, de créer des sous-groupes, en fait, dans chaque région viticole, parce qu'il faut que les femmes arrivent à se retrouver dans les régions, à créer des groupes de parole, de discussion, d'échange, et ça va se faire.
Quand tu parles de violences sexistes et sexuelles, tu parles de quoi concrètement ? Qu'est-ce qui se passe ? Quels sont les témoignages que tu reçois ?
Alors, il y en a tellement. En fait, des violences sexistes, ça va être des réflexions quotidiennes sur le physique, sur les seins, sur les fesses, sur t'es une femme, alors toi t'y connais rien, ou enfin toujours rabaisser, voilà. Donc ça,
tu vas faire tourner le vin parce que t'as tes règles.
Oui, voilà. Ça, mais ça, le pire, c'est que ça existe encore. Hein. On a l'impression que c'est un truc sorti du Moyen Âge, mais il y a encore des gens qui vivent au Moyen Âge a priori. Des comportements sexistes, c'est par exemple une jeune femme qui est en stage et qui veut apprendre à travailler la vigne, à faire le vin et qui ne va faire que du ménage. J'ai eu un témoignage il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que j'y pense, qui n'aura jamais mis les pieds dans une vigne, ou alors qu'on va lui dire « Ah mais non, toi t'es une femme, tu peux pas conduire un tracteur ». Elle est sans arrêt ramenée à son genre, en fait. Donc ça, c'est vraiment du sexisme ordinaire. Après, des violences sexistes... ça peut être des trucs, j'en ai en tête, mais j'ose même pas les dire. Des trucs assez dégoûtants, on va dire, qui nous sont dits comme ça en public. J'ai publié un témoignage là il n'y a pas longtemps. Une jeune femme qui veut simplement donner son numéro, qui travaille, qui est en stage, qui veut simplement donner son numéro de téléphone parce qu'elle gère pas mal de trucs. Et comme ça, s'ils ont un problème, et là, on lui dit « Ah non, donne pas ton numéro parce que si un soir j'ai envie de t'enculer, je pourrais pas m'en empêcher. » Voilà, ce genre de truc, c'est une petite réflexion assez vulgaire, mais qu'il faut encaisser. Et puis passer à autre chose, donc c'est pas forcément... On est dans un environnement professionnel, donc c'est pas forcément... Et après, des violences sexuelles, ça peut aller de l'agression sexuelle, ça va être des mains aux fesses, des mains... Enfin, c'est ça, les agressions sexuelles, des mains sur les seins,
Et après, ben, on peut passer à des choses beaucoup plus graves, sur des viols, quoi.
Tu disais que tu avais été surprise par l'ampleur de la situation. Mmh. Est-ce que tu peux nous donner... est-ce que tu peux essayer de partager ça? C'est-à-dire à quelle fréquence tu reçois des témoignages
Ah, j'en reçois... Alors, ça dépend beaucoup, en fait, parce que des fois... Quand je publie un témoignage, en fait, ça va en amener plein d'autres. Donc, un témoignage va peut-être en amener 3 ou 4 ou une dizaine. Et après, bah, si je ne publie pas de témoignage pendant quelques temps, bah, ça va se calmer. Voilà, mais on va dire que je reçois... En ce moment, j'en reçois beaucoup quand même. Donc, je ne sais pas, on va dire 2 ou 3 témoignages par semaine.
Et au-delà de la publication sur le compte, qu'est-ce que tu en fais de ces témoignages?
Alors, quand je reçois un témoignage, déjà, je l'écoute. J'essaie d'être bienveillante. J'essaie de mettre des fois des mots sur des situations parce que j'ai des femmes et des jeunes femmes qui vont me raconter sans, pour par exemple, me parler de gestes inappropriés, alors qu'un geste inapproprié, c'est une agression sexuelle. Enfin voilà, ou qui vont me décrire un viol sans nommer le viol, et en fait. Elles se rendent compte que quand on discute, elles se rendent compte de ce qu'elles ont vécu finalement. Mais j'essaie de le faire doucement. Moi, je veux pas être dans les injonctions. Je ne vais jamais dire il faut déposer plainte, parce que en fait, on sait aujourd'hui quand on dit aux femmes d'aller déposer plainte qu'on leur dit en gros d'aller se faire classer sans suite. Hein. Donc ça, il faut que ça soit une décision personnelle. Si elles décident d'aller déposer plainte et qu'elles ont besoin d'être accompagnées, moi j'en ai accompagné par exemple sur des conseils d'avocates, ou j'en ai accompagné certaines jusqu'à la gendarmerie, mais j'étais au téléphone ou pour être là parce qu'elles avaient besoin qu'on soit là, ou lors des conseils aussi parce que maintenant j'arrive à connaître un petit peu le sujet, donc des conseils peut-être juridiques je joue un rôle, je suis pas psy, mais je joue un rôle un peu de voilà, je suis là, je suis à l'écoute.
C'est de l'accompagnement.
C'est de l'accompagnement, ouais. Et après, je les suis, parce que un témoignage, c'est pas juste un témoignage et au revoir. En fait, souvent j'ai un suivi avec ces femmes qui vont me tenir informée. Si elles ont déposé plainte, elles me tiennent informée de la procédure, ou elles me tiennent informée du déroulement de la construction de leur plainte. Il y a un vrai suivi. J'étais aujourd'hui en contact avec une jeune femme qui a déposé plainte contre un vigneron, et ça, c'est tellement long, et elle me dit je suis sûre que c'est foutu. Je dis non, la justice est tellement lente. Je dis si t'as pas de nouvelles, ça veut pas dire que y a rien qui se passe, rien en fait, ça veut juste dire que c'est long. Donc c'est les rassurer aussi.
Ouais, d'ailleurs, sur ce sujet en particulier, de la lenteur ou de l'information des victimes, si vous voulez savoir un peu comment ça a fonctionné, comment ça fonctionne toujours un petit peu, je recommande la lecture du livre « Sambre », qui a été écrit par la journaliste Alice Géraud. Il y a eu une très bonne série qui est passée sur France 2 à l'automne dernier. Mmh. Et dans le livre, c'est encore un petit peu plus précis sur le fonctionnement de la police, de la justice, comment fonctionnent les enquêtes, comment est-ce qu'on informe les parties civiles ou pas, comment se prépare un procès. Et donc ça donne une bonne idée du fonctionnement de la justice aujourd'hui en France.
Mmh. Ah oui, c'est très très long. Enfin, je veux dire, du moment où une femme va déposer plainte, par exemple, pour viol... il peut se passer 6 ou 7 ans avant que, si c'est instruit et qu'il y a un procès, il peut se passer 6 ou 7 ans avant qu'il y ait un procès. Et s'il y a un appel et tout ça, il peut y avoir 10 ans, quoi.
Alors, les violences sexistes et sexuelles, c'est un sujet qui a explosé un petit peu partout dans la société, au moins depuis MeToo en 2017. Est-ce que tu dirais que le monde du vin, il est particulièrement touché par ça, ou est-ce que... c'est le reflet de la société actuelle?
Non, je pense que c'est le reflet. Je pense que c'est le reflet de la société actuelle. Après, le monde du vin, on a deux problèmes, je pense quand même, qui peuvent augmenter un peu le truc. C'est que on est dans un monde d'hommes et qu'il y a de l'alcool. Voilà. Et que l'alcool désinhibe les comportements. Et que les femmes dans le monde du vin, elles n'ont pas le pouvoir. Et voilà, ça arrange pas les choses, quoi, selon moi. Donc peut-être, je ne sais pas, parce qu'on n'a aucun chiffre, en fait. Donc, mais je pense que le monde du vin... Enfin, en tout cas, ça a été silencié jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, ça ne l'est plus, et heureusement... donc y a, on sent quand même un vieux monde, même si un vieux monde où il y a des jeunes, hein, parce qu'il y a quand même des jeunes dans ce vieux monde, qui sont quand même accrochés à leurs privilèges et qui n'ont pas du tout envie que ça change et qui le font bien savoir ou qui le font savoir en travaillant en douce, voilà. Mais on les voit, il faut bien qu'ils le sachent. Alors ça, c'est un peu compliqué. Après, on a quand même des hommes qui sont nos alliés, et c'est important. Il va falloir qu'ils le disent haut et fort, parce que, en fait, d'apporter son soutien doucement... En venant me voir ou en me disant que voilà, qu'ils nous soutiennent et tout, ça suffit pas, en fait. Il faut s'engager ouvertement. Il faut avoir c'est pas facile de militer contre les violences sexistes et sexuelles, parce qu'en fait les agresseurs, ils sont partout. On croit que les agresseurs, c'est déjà l'agresseur, il est toujours loin de nous. C'est quelqu'un qu'on connaît pas, c'est quelqu'un dont on sait qu'il est un agresseur, parce qu'il doit être... L'agresseur est forcément bizarre. Ben, dans la série Sambre, on l'a bien compris, c'est le bon père de famille. Mais c'est pas comme ça qu'on nous a appris à quoi ressemblait un agresseur. En fait, un agresseur, on nous a appris que c'était quelqu'un qui allait nous coincer dans un parking souterrain la nuit. Enfin, je veux dire, c'est pas... On nous a toujours appris à nous méfier en tant que petite fille et en tant que femme à des gens qu'on ne connaissait pas. On nous a jamais appris à nous méfier des gens qu'on connaissait. Et c'est ceux-là les plus dangereux, finalement, parce que eux, ils profitent de ça, qu'ils nous connaissent. Et du coup, voilà. Donc, en fait, il y a ça à prendre en compte.
Juste pour préciser là, ce dont tu parles, il y a des chiffres qui sont sortis par des associations et des chercheurs et des chercheuses qui disent que, grosso modo, dans les cas de viol et d'agression sexuelle, 80% des personnes agressées connaissaient leur agresseur avant l'agression. Donc, effectivement, ce que tu dis, l'agresseur au fond d'un parking, dans une rue sombre qu'on ne connaît pas bien, souvent c'est aussi un peu des immigrés par hasard.
A priori.
A priori, c'est pas ça qui se passe dans la plupart des situations.
Non. Moi, je vois d'ailleurs dans la plupart des témoignages que j'ai, elles connaissent toutes leur agresseur. Enfin, je veux dire, c'est un collègue, c'est un vigneron voisin, c'est elles le connaissent toutes, quoi. Enfin, il y a très rare. Enfin, moi, dans tous les témoignages que j'ai, elles le connaissaient toutes.
Tu parles beaucoup des témoignages que tu écoutes avec beaucoup d'attention et de bienveillance. Comment tu fais pour ne pas crouler sous le poids de leurs témoignages au quotidien, sous le poids de ces témoignages ?
Je sais pas. Honnêtement, je sais pas.
T'es anesthésiée à force ?
Non, je suis pas anesthésiée, parce que ça me met beaucoup en colère. J'aimerais des fois être anesthésiée. Il y a des témoignages qui me touchent beaucoup, il y en a qui me font pleurer, il y en a qui me mettent en colère. Mais je me dis, à chaque fois, je me dis... en fait, moi, ma seule... ce qui me fait avancer, c'est que j'ai envie que ça... En fait, je sais que c'est peut-être un rêve, mais... Et tout, en fait, on est dans... On a cette ambition-là, c'est on a envie que ça s'arrête. Donc, si on a envie que ça s'arrête, en fait, il faut qu'on en parle, il faut qu'on le dénonce, il faut que... Voilà, c'est... Alors, je tiens le coup pour le moment. Je ne sais pas, peut-être un jour, je vais m'écrouler. Mais voilà, c'est ce qui me fait tenir le coup.
Est-ce que tu es entouré? Est-ce que l'association compte d'autres membres que toi?
Oui, alors l'association, alors dans le bureau, on va dire restreint, on est quatre. Et ensuite, il y a des groupes de travail, donc on est une quinzaine, où il y a des groupes de travail qui œuvrent sur différents sujets. Voilà, il y a un groupe qui travaille, par exemple, sur la création d'un site internet. Il y a un groupe qui travaille plus, on a refait le visuel de Peyton Pinard, voilà. Donc plus sur la partie, plutôt communication, graphisme, tout ça. Il y a un groupe qui travaille sur l'écriture d'une charte, sur une charte de bonne tenue lors des salons. Moi, j'aimerais qu'on arrive à mettre... à créer un genre de, comment dire, de label pour que les... comment dire, que les cavistes, par exemple les cavistes, les restaurateurs, les vignerons, les professionnels du vin signent et que qu'ils puissent mettre en avant le fait qu'ils ont signé cette charte, ce label, et pour identifier des lieux sécures en fait pour les femmes et aussi des endroits où on s'engage à agir et à réagir, voilà, contre les violences sexistes et sexuelles. Donc, vraiment, un vrai engagement et où, où j'aimerais qu'on ait aussi des formations. Moi, je mise beaucoup sur la formation, la sensibilisation et la prévention. Donc, j'ai déjà commencé à intervenir dans les lycées parce qu'en fait, je suis... quand j'ai commencé à intervenir dans le lycée, c'est qu'en fait, c'est des jeunes femmes qui m'appellent et qui me demandent d'intervenir dans le lycée parce qu'elles subissent trop de sexisme, voilà, et que ça devient insupportable pour elles. Donc, je suis intervenue comme ça. Et là, je vais intervenir au lycée viticole d'Orange au mois de mars. Pareil, sur demande d'étudiantes qui... apparemment, il y a des gros problèmes dans ce lycée et elle consacre une semaine sur le sujet des violences sexistes et sexuelles. Et moi, je vais intervenir une après-midi. Voilà. Donc, en fait, ça, c'est quelque chose vraiment qu'on est en train de mettre en place et qui va et qu'on va renouveler. Enfin, je veux dire, moi, je veux que les établissements s'engagent à ce qu'il y ait ces formations-là au sein des établissements, parce qu'en fait, il y a beaucoup de problèmes. Et après, je pense qu'on... Enfin, moi, j'aimerais qu'on fasse des formations aussi. Par exemple, j'ai des témoignages dans les caves coopératives, dans ce genre d'endroit aussi. En fait, quand il y a... Du moment qu'il y a des employés, des salariés et qu'il y a des femmes, il faut sensibiliser sur le sujet, parce que si on ne sensibilise pas... Il y a des fois, on met juste... Moi, quand je suis intervenue dans un lycée, ça fait déjà peut-être 2 ans, les filles, elles n'en pouvaient plus, elles étaient 3 dans une classe où il n'y avait que des garçons, et en fait je suis intervenue, j'ai donné des exemples, j'ai répondu à leurs questions, ils étaient hyper attentifs, et en fait après ça, ça allait beaucoup mieux. En fait, je pense qu'il y a du sexisme intégré et ils s'en rendent pas compte. Donc, en fait, le fait de l'identifier et de leur dire, ça va pas, parce qu'ils se rendent pas compte, mais une réflexion, ils vont faire une réflexion à une fille de leur classe. Elle va s'en prendre une autre d'un autre garçon et d'un autre et d'un autre. Et dans la journée, elle s'en est pris 5 ou 6, mais ok, lui, il va dire, oh, ça va. Mais ouais, mais c'est bon, je viens de m'en prendre une, je vais m'en reprendre une. Enfin, je passe mes journées à ça. Enfin, c'est pas possible, en fait. On n'est pas là pour ça. Enfin, puis c'est difficile à chaque fois de se mettre en colère, parce qu'on n'est pas toujours en colère, finalement. Il y a des fois, on va se prendre ses réflexions. Il y a des jours où on est en forme, on va pouvoir répondre, et des jours où on n'est pas en forme et ça va nous toucher plus que d'autres. Et ça, il faut le prendre en compte. Et il y a un moment donné, est-ce que c'est très constructif, toutes ces humiliations quotidiennes sur le genre. Donc, en fait, de leur expliquer ce que c'était, ce que ça pouvait être. Et je pense qu'ils ont compris qu'ils pouvaient eux aussi se comporter de cette façon. Et ça a tout changé. Donc peut-être qu'on peut résoudre quelques problèmes. Je ne dis pas qu'on va résoudre tous les problèmes, mais peut-être qu'on peut faire réfléchir en tout cas.
Est-ce que pour mener à bien tous ces projets, l'association a besoin de forces vives ? Et à bon entendeur, bien sûr.
Ouais. Ah oui, oui, bah on a besoin évidemment de. Alors on en a toujours qui se présentent, qui nous aident. On peut nous aider plein de façons et on a surtout besoin de beaucoup d'argent. Donc là, on a demandé des subventions. Je ne sais pas comment ça va être reçu, mais au ministère de l'égalité hommes-femmes, on a fait plein de dossiers pour avoir des subventions. Moi, je voudrais qu'on arrive à professionnaliser l'association parce que, pour le moment, moi, ça fait 3 ans que je travaille aujourd'hui à 80% pour l'association. Pas pour la gloire du coup, mais donc il y a un moment, il faut qu'on soit... Et puis... payer les gens qui travaillent sur un graphisme, payer des gens qui vont travailler sur la comptabilité, payer des gens qui vont travailler sur un site internet, payer des gens qui vont recevoir tous les témoignages. Enfin, il y a un moment donné, les violences sexistes et sexuelles, en fait, et le militantisme, c'est un des rares secteurs où on est souvent pas payé pour ce qu'on fait. Et que n'importe quel autre métier, action, on est rémunéré. Je veux dire, quand on prend un avocat ou une avocate, on la paye. Quand on va voir un psy, on la paye. Donc il y a un moment donné, il va falloir faire des interventions dans les lycées. Aujourd'hui, on a une expertise. Moi, j'ai une expertise que je transmets. Ça a une vraie valeur, en fait. Et pour que ça ait de la valeur aussi, il faut peut-être que les gens payent pour ça aussi. J'espère qu'on pourra le faire, qu'on pourra salarier des gens qui vont faire des interventions un peu partout, des gens qui vont... Parce qu'il faut être présente sur le terrain toujours, en fait. Donc ça nous permettra ça. Et j'espère... du fond du cœur qu'un jour on n'en aura plus besoin, mais
c'est pas pour demain apparemment.
C'est pas pour demain, non, pas demain. Peut-être après-demain.
est-ce qu'à défaut de te donner un revenu, c'est un engagement qui te nourrit?
Sûrement, parce que en fait on n'est pas militante. Enfin, moi aujourd'hui le réseau des militantes féministes ne doit pas être si grand que ça, parce qu'on se connaît presque toutes, en fait. Moi, je connais aujourd'hui, je suis en relation avec des femmes qui ont été, des journalistes qui ont été victimes de Patrick Poivre-d'Arvor, ou je pense à Charlotte Arnould qui a déposé plainte contre Gérard Depardieu. Et c'est tout des femmes avec qui, que je connais maintenant, enfin, avec qui on échange, et on est un réseau... fort, enfin on est donc on je pense pas que ce soit un réseau. Moi j'ai l'impression qu'on est que des militantes féministes qu'il n'y a que ça sur la terre. Bon, en fait non, on est assez peu nombreuses, mais on est ça me nourrit parce que franchement moi je suis nourrie par la sororité, en fait, et la sororité j'y crois beaucoup, et on est plus fortes ensemble. Et ça, j'y crois vraiment. Donc oui, ça me nourrit quelque part.
Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais j'ai 2 questions qui, normalement, sont un peu larges. Et je vais demander d'essayer d'y répondre brièvement.
Succinctement.
Ouais, succinctement, on va voir. Est-ce que tu peux essayer de nous expliquer ce que c'est la culture du viol ?
Alors, la culture du viol, c'est quelque chose... qui est très ancré et qui est assez indéfinissable dans la mesure où c'est très ancré dans notre culture. Par exemple, la culture du viol, ça va être, je vais donner des exemples, ça sera plus simple. Quand une femme va être victime de viol, justement, et qu'elle va en parler, directement, on va mettre en doute sa parole. Et directement, on va poser des questions du style « Mais pourquoi t'étais là-bas ? Mais comment t'étais habillée ?» On va chercher à mettre la culpabilité sur la victime. Et en fait, jamais on va se poser la question « Mais en fait, pourquoi lui, il a violé ?» C'est jamais cette question-là qu'on pose. En fait, directement, on va amener la culpabilité sur la victime et on va mettre en doute sa parole. Donc ça, c'est de la culture du viol. Voilà. Pour résumer assez rapidement.
Alors, l'autre question que je voudrais te poser, est-ce que les hommes, ils peuvent être féministes ?
Ah. Alors, on est assez partagé sur la question, même au sein des féministes, en fait.
C'est pour ça que je dis que ça fait un peu débat.
Ouais. Hein. Moi, je pense pas. Moi, je pense pas parce que un homme, il reste un homme et il peut pas se mettre à la place d'une femme, quoi qu'il arrive. Même avec tous les efforts possibles et inimaginables, il pourra pas se mettre dans la peau d'une femme. Il pourra pas savoir ce que nous, en tant que femmes, on vit au quotidien, en fait. Et voilà. Donc rien que pour ça. Et puis dans le mot féministe, il y a un peu le mot femme, voilà. Et après, je trouve que le mouvement féministe, ça date pas d'aujourd'hui. C'est des combats des féministes. Il y en a depuis longtemps. Souvent, d'ailleurs, les féministes mortes sont très encensées parce qu'au moins elles font plus chier. Hein, elles sont mortes. Donc elles, souvent, on les porte au nu. Ah oui, c'est pas comme Simone Veil. Parce que Simone Veil à son époque, elle n'était pas très bien vue. Hein. Mais aujourd'hui, c'est une féministe...
Bien, c'est une féministe respectable.
C'est, ouais, c'est vraiment c'est une bonne féministe.
Alors que toi, t'es une casse-couille.
Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Mais je me rappelle plus ce que je voulais dire.
Que les garçons, ils ne sont pas féministes.
Ils sont pas féministes. Ah oui, et du coup, le mouvement féministe, donc, c'est un combat de femmes pour le droit des femmes et pour plein de choses. Enfin, je veux dire, le droit de l'IVG, tout ça, c'est des sujets de femmes. D'ailleurs, ce qui est complètement incohérent et pour moi impensable, c'est qu'on ait des hommes qui vont voter pour ou contre l'avortement, alors qu'ils ne sont... Il y avait un joli film hier à la télé, sur la 2, je crois, sur l'histoire d'une... C'était dans les années 60... Non, c'était quand ? Je ne sais même plus. Et c'était une... l'avortement n'était encore pas... avant la loi Veil. Et en fait, c'était le parcours d'une gamine, en fait, qui tombe enceinte et... Et du coup, là, on comprend que en fait, c'est vraiment un problème de femme. Enfin, l'avortement, c'est une jeune femme qui va tomber enceinte. À l'époque où c'était interdit, enfin, je veux dire, son compagnon de l'époque, lui a dit de se débrouiller toute seule. C'est pas son problème. Enfin, et ça devient le problème des hommes quand il faut voter une loi. Enfin, c'est voilà. Donc en fait, il y a des problèmes de femmes. Et aujourd'hui, que le mouvement féministe, parce que bien sûr, avec les réseaux sociaux, on en parle beaucoup. Donc les féministes, on les entend beaucoup plus aujourd'hui qu'on ne les entendait avant. Et en fait, on a des hommes qui... Je pense à un homme qui m'avait fait un message que j'avais vu, je ne me rappelle plus. Et lui, il avait été outré parce qu'en fait, il avait voulu intégrer un mouvement féministe, une manifestation féministe, et on lui avait demandé de se mettre derrière pour que les femmes se sentent en sécurité. Et on lui avait demandé de se mettre derrière, ce qu'il avait totalement pas du tout accepté, parce que la place d'un homme, c'est devant et pas derrière. Et du coup, moi, il m'avait raconté cette expérience et j'avais essayé de lui expliquer qu'en fait, dans les manifestations féministes et au sein des militantes féministes, il faut bien se rendre compte que la plupart, on a été victime de violences sexuelles. Et que si on est là et qu'on milite, il y a une vraie raison à ça. Et il m'avait dit, oui, puisque c'est comme ça, vous n'avez qu'à vous démerder toute seule. Mais en fait, on ne t'a rien demandé. tu viens là nous donner ta vision du féminisme. Mais oui, tu peux être un allié. Mais en fait, les hommes, je pense, qui sont des vrais alliés, en dehors du... On peut être un vrai allié du féminisme en dehors du mouvement féministe. Les mouvements féministes, c'est des mouvements de femmes... Les femmes, elles se sont regroupées parce qu'on ne les entendait pas, parce qu'on ne les écoutait pas, parce qu'il y avait des vrais problèmes. Aujourd'hui, se raccrocher à un mouvement peut-être se faire bien voir ou je ne sais pas, ça aide pas. Ça aide pas. On peut être un vrai allié sans être raccroché à la cause féministe vraiment. Après, voilà, il y a des hommes qui se disent féministes, mais je ne vais pas les contrarier. Hein.
Alors, quand tu parles d'alliés, ça me fait penser à une idée intéressante que j'ai entendue de la bouche d'un chercheur et essayiste québécois qui s'appelle Francis Dupuy-Déry et qui notamment participe à une association au Québec. Où le but de l'association, en fait, c'est d'aider les femmes dans leur lutte féministe. Et qu'est-ce qu'ils font ? C'est un appui logistique, en fait, concrètement, pour que les femmes puissent aller en manifestation à certains événements et ainsi de suite. Et donc, concrètement, qu'est-ce qu'ils font ? Par exemple, sur certains événements, c'est eux qui vont faire toute la nourriture pour que l'événement puisse se dérouler. C'est eux qui disent, on va garder les enfants de toutes les femmes le samedi après-midi pour qu'elles puissent aller manifester. Voilà, donc c'est peut-être ça en termes d'alliés
Il y a ça, effectivement. Et puis après...
C'est une idée parmi d'autres, évidemment.
Oui. Mais après, c'est vrai qu'il y a, par exemple, être un allié à la cause féminine, ça serait, je vais donner un exemple très concret, Judith Godrèche, quand elle a fait son discours au moment des Césars, après, il faudrait qu'on ait des vrais soutiens d'hommes, d'acteurs, qui prennent position, qui prennent la parole, et ils ne le font pas, en fait. Il n'y a que des femmes. Et c'est à ce moment-là qu'on a besoin des hommes. C'est pas dans les manifestations... Enfin, dans les manifestations, il y a des hommes, mais c'est pas dans les réunions féministes, c'est pas là qu'on en a besoin. C'est vraiment une vraie prise de position à des moments où il faut s'engager, prendre position contre les violences sexuelles. Et là, on ne les voit pas. Et ça, moi, et dans le monde du vin, pareil, hein. Enfin, je veux dire, c'est exactement pareil. Donc, il faut s'engager et prendre la parole et le dire. Enfin, les comédiens, ils ont tous la possibilité de le faire, de prendre la parole. C'est facile pour eux. Et qui c'est qu'on voit prendre la parole ? C'est des femmes, et c'est toutes des femmes qui vont dire « Moi aussi, j'ai été victime de ci, et moi aussi, j'ai été victime de ça. » Et maintenant, on essaye de lancer le... Il y en a qui essayent de... Enfin, qui ont lancé le MeToo Garçon. Mais le MeToo Garçon, en fait... Qui fait les violences sexuelles sur les garçons ? Enfin, je veux dire, c'est les mêmes, quoi. C'est des hommes aussi, hein. En fait, on milite, nous, en tant que femmes, on milite contre les violences sexuelles qui sont à 99% faites par des hommes. Mais les hommes... Enfin, je veux dire, il y a une domination patriarcale qui fait que c'est les hommes qui font aussi les violences sexuelles chez les garçons. Donc, en fait, on milite... quand on milite pour les violences sexuelles faites aux femmes, on milite aussi... contre les violences sexuelles faites aux garçons, forcément. Enfin, pour moi, c'est une évidence.
Il est temps de te poser notre dernière question habituelle. Est-ce que tu es heureuse dans ce que tu fais ?
Oui, je crois que je suis heureuse, parce que moi, en fait, je n'arrive pas à faire des choses qui ne me plaisent pas. Donc, je pense que je suis heureuse. Je fais plein de choses aujourd'hui qui me plaisent, donc oui. Je suis heureuse.
Merci Isabelle.
Merci à vous.
Chers auditeurs, chères auditrices, vous souhaitez contacter Isabelle pour lui faire part d'un témoignage ou donner un coup de main à l'association ? Retrouvez-la sur le compte Instagram de Paye ton pinard. L'association a également une page sur le site internet Hello Asso pour recueillir des dons et valider votre éventuelle adhésion. Vous pouvez également nous contacter par mail lebongraindelivresse@gmail.com et nous ferons suivre à Isabelle. Merci Isabelle pour cette riche discussion et tu peux compter sur le soutien du Bon Grain de l'Ivresse. Je suis Romain Becker et vous écoutez Le Bon Grain de l'Ivresse. Réalisation Romain Becker, Antoine Sica et Florian Nunez. Merci à Emmanuel Nabet pour la post-production, à Emmanuel Doré pour le générique original et à Léna Mazilu pour les graphismes. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures viticoles. D'ici là, éclatez-vous et buvez bon !